coup, ça va nous amener maintenant à parler de la responsabilité de l'État, peut-être du manque de prévision et d'anticipation de l'État dans le signé-consigné pour terminer cette émission. Bonsoir Charles Consigny.
Bonsoir.
Et vous êtes, ce soir, vous allez pouvoir discuter avec Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie. Bonsoir, hein, monsieur Bonsoir. Le ministre, auteur de Le temps d'une décision aux éditions Gallimard. Mais que ce soit de l'économie, et quand on regarde les chiffres, on les rappelle, 3500 milliards de dettes, 52 milliards d'euros de déficit, taux record de prélèvement pour financer le modèle social et public. Modèle social et public que l'on voit en difficulté aussi dans le traitement des affaires judiciaires. Il y a le rapport qui a été remis aujourd'hui sur l'affaire Liana, et même s'il pointe des responsabilités individuelles, il montre aussi les problèmes d'enchaînement dans la machine judiciaire. Là, on a les écoles qui sont obligées de fermer, on renvoie les enfants chez eux dans un pays où l'école est obligatoire parce qu'on n'arrive pas à les ventiler, parce qu'on n'arrive pas à les climatiser. Est-ce que c'est le symbole d'une France qui va mal, d'une France en faillite, Charles Consigny, ou pas?
En tout cas, ce qui est curieux, c'est que quand les Français ont voté pour Emmanuel Macron en 2017, je pense qu'ils s'attendaient à une modernisation du pays. Je pense que, choisissant ce jeune banquier fringant, ils se sont dit, bah voilà, c'est la start-up nation, on va voir ce qu'on va voir, il va libéraliser l'économie, il va supprimer ce qui marche pas dans la machine publique, il va nous faire revenir dans le game de la compétition entre les grandes nations du monde. Et finalement, bon, on a eu, somme toute, alors certes, il y a eu le Covid, il y a eu des choses comme ça, mais on a eu une politique finalement très classique, très, très, très dépensière, avec fort peu de réduction de dépenses publiques et donc fort peu de marge de manœuvre pour procéder à cette modernisation. Et effectivement, on le voit maintenant, où la France, au bout de 10 ans de macronisme, de bloc central, de comme on l'appelle,
de lemérisme.
Non, pas de lemérisme, parce que il va nous expliquer dans un instant comment il s'associe à tout ça et quelle est sa part du bilan. Mais moi, j'ai le sentiment que la France, elle est quasiment menacée de disparition aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien que à l'échelle du monde, on compte plus vraiment. Et nous-mêmes, en fait, on sait même plus si on existe encore. Et il y a déjà Mélenchon qui est pressé de tourner la page avec sa nouvelle France, et le RN qui est pressé de poursuivre le rabougrissement. Voilà, j'en termine par là. Donc, moi, je me dis, ce bilan, il est quand même contrasté.
Est-ce que vous en sentez en partie responsable ou pas, Bruno Le Maire ?
Alors, moi, je suis responsable de tout le bilan économique et financier de 2017 à 2024. J'ai pas l'habitude de me cacher derrière mon petit doigt. Je prends mes responsabilités, j'étais ministre de l'économie et des finances, donc je revendique le bilan de 2017 à 2024. Avec ses points noirs, vous l'avez dit, le déficit, la dette, on pourra y revenir, ça s'explique aussi par le Covid, par l'inflation, par la dissolution qui nous a empêchés de mettre en œuvre le plan de redressement des comptes publics et qui m'a forcé à partir dans de mauvaises conditions. Et puis il y a des zones qui sont des zones lumineuses, la création de 2,6 millions d'emplois, on avait atteint 7% de taux de chômage, la réindustrialisation, la stabilité fiscale pour laquelle je me suis battu pendant 7 ans. Il a suffi que je parte pour que dès le lendemain, on se remette à augmenter les impôts, faire une surtaxe à l'impôt sur les sociétés et ainsi de suite. Mais moi, la conclusion que je tire de tout ça, c'est que notre modèle est à bout de souffle. Et qu'effectivement, quand je regarde après 2 ans en dehors du gouvernement, que je réfléchis à ce qui s'est passé, parce qu'il faut faire, comme dirait Marc Bloch, son examen de conscience. On a fait des choses positives, introduit des réformes qui sont utiles, mais nous n'avons pas changé le modèle. Or, le modèle, et tout le monde, la justice, l'économie, la dette, est à bout de souffle. Donc l'enjeu des prochains mois, c'est pas de faire une réforme ici ou de faire une réforme là, c'est de proposer un nouveau modèle français qui, du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue de la justice, soit plus efficace et donne les résultats aux Français qui payent très cher ce modèle que les Français sont en droit d'acheter.
À qui la faute alors aussi
de
changer de modèle ?
Tout ça, ça
résonne. Ça ne peut être que la faute d'Emmanuel Macron.
Doucement,
il n'a pas été tout seul.
Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu. On dit souvent que gouverner, c'est prévoir, et je pense qu'il y a eu quand même une espèce de manque de courage politique qui est lié, à mon sens, à l'ADN du macronisme. C'est pour ça que moi, milite contre intellectuellement cette histoire de bloc central qui me paraît être une connerie monumentale, si je m'exprime un peu directement. Parce que là, on voit bien, tout le monde est en train de se précipiter comme sur le radeau de la Méduse, derrière la candidature de celui ou celle qui portera cette famille politique. Mais donc, on sera encore une fois avec à la fois des gens de gauche, des gens de droite, des gens qui étaient contre le nucléaire, par exemple. Il y a quelques archives qui sont ressorties. D'éminentes figures du macronisme expliquaient qu'il fallait de toute urgence démanteler les centrales, etc. Finalement, on se rend compte qu'heureusement, on a le nucléaire. Des gens qui sont pour le laxisme en matière de sécurité. Des gens qui sont contre toute fermeté en matière migratoire. J'ai encore entendu Emmanuel Macron qui a expliqué que lui, oulala, il voulait surtout pas qu'on utilise un pays tiers pour les expulsions, etc. Donc, à force de pas choisir, je trouve qu'on a pas fait les réformes. Et je pense que c'est très dur. On vous a reproché, Bruno Le Maire, de pas avoir démissionné quand vous sonniez l'alarme. C'est sûr que c'est très dur. D'autant plus que c'est pas toujours la solution de démissionner. Regardez Bruno Retailleau qui a démissionné à cause de vous, parce que soi-disant le cornu l'a pris par surprise.
Mal lui en a pris.
Voilà, il a regretté amèrement d'avoir démissionné. Mais quand même, je pense que parfois c'est louper une opportunité, parce que je signe ce que vous dites dans votre livre, etc. Moi, je pense qu'il faut aller, à titre personnel, je termine par là. Je pense qu'il faut aller même beaucoup plus loin dans la réforme du pays. Je pense qu'il faut 1 million de fonctionnaires en moins. Je pense qu'il faut travailler 40 heures. Je pense qu'il faut faire la retraite à 67 ans. Je pense qu'il faut tronçonner les agences de l'État, tronçonner les échelons administratifs, supprimer les aides aux entreprises et baisser d'autant les prélèvements obligatoires. Tout ça, je pense qu'il faut le faire vraiment avec l'énergie d'une charge de cavalerie, si vous voulez. Or, on a eu...
Vous n'avez pas été sabre au clair.
Vous avez été un peu au pas.
Vous étiez avec une épée de bois, quoi.
Moi, je suis allé sabre au clair sur la réforme fiscale. Personne n'a fait une réforme fiscale comme celle que nous avons faite en 2017. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui voulaient la faire en deux temps. Et moi, j'y suis allé sabre au clair. Et contre beaucoup dans la majorité, j'ai imposé une réforme qui s'est faite en une seule fois pour baisser l'impôt sur les sociétés, baisser l'imposition du capital, le prélèvement forfaitaire unique. Là où je rejoins sur beaucoup de points ce qu'a dit Charles Consigny, c'est d'abord, je n'aime pas cette expression de bloc central, qui n'est ni un bloc, ni central, et qui vous empêche de réfléchir aux diagnostics et aux solutions. Pour moi, aujourd'hui, au point où nous en sommes arrivés, dans un modèle qui est à bout de souffle, il y a 3 priorités absolues. Et je ne parle pas en secteur, en vous disant il y a la médecine, la santé, non. Il y a 3 priorités absolues pour la nation française. La première, c'est l'appauvrissement de la nation française. On le voit en tout. On le voit dans les services publics, on le voit dans les salaires, on le voit dans la difficulté des gens à boucler les fins de mois. La réponse, c'est quoi? C'est plus de travail, c'est la liberté pour les entreprises et c'est le retrait de l'État d'un certain nombre d'activités économiques. La deuxième priorité, c'est l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État ne pourra pas être rétablie si vous ne rétablissez pas des chaînes de commandement claires, si vous ne clarifiez pas l'organisation politique du pays. Aujourd'hui, vous avez 5-6 échelons différents. Moi, j'en propose 3. L'État, la région, la commune, rien d'autre. Si vous ne mettez pas fin au fonctionnement de la haute fonction publique telle qu'il existe aujourd'hui, où personne n'est jamais responsable de rien, c'est des gens, ils sont recasés. Moi, j'ai démissionné de la haute fonction publique. Mais tout le monde devrait faire la même chose quand il fait de la politique. Et cette manière que l'on a de replacer les uns et les autres dans des différents postes sans que jamais personne ne rende de compte sur ce qu'il a fait est insupportable pour les Français.
Oui, mais la question...
Je termine juste sur la troisième priorité, c'est l'Allemagne. Parce que nous voyons bien aujourd'hui que nous sommes en train de nous éloigner des Allemands, donc nous éloigner d'une construction européenne qui est pourtant la seule protection possible face à la Chine et face aux États-Unis.
Ce que vient de dire Bruno Le Maire, ça nous rattache justement, vous avez défini 3 priorités, à l'actualité du jour. Et dans un domaine que vous connaissez bien, qui est celui de la justice, le rapport qui a été rendu sur, malheureusement, le drame de l'IANA. Que dit Sébastien Lecornu? La chaîne de protection a failli. Succession d'erreurs, de négligence, d'inaction et de mauvaises décisions. Et on regarde, notamment du côté de Hoche, que c'est pas une question de moyens. Et donc on se dit, puisqu'on est dans le service public, chaîne de protection, succession d'erreurs, est-ce qu'il y aura des sanctions? Est-ce que quelqu'un sera responsable? Il n'est pas question de trouver un bouc émissaire, de dire ensuite, voyez, on a sanctionné. Mais simplement de dire, malheureusement, ça a conduit à la mort d'une petite fille, et c'est la machine de l'État qui s'est ratée.
Bien sûr.
Donc, parce que là, logique, ensuite, on nous dit, là, c'est logique, le pré-rapport, il y aura des enquêtes administratives pour manquement professionnel.
La logique du bouc émissaire, je l'ai bien connue, c'était rappelé par Charles Consigny, on a dit, voilà, les 1000 milliards d'euros de dette, c'est Bruno Le Maire, donc on dégage. Oui, d'accord, Bruno Le Maire est parti, et au bout du compte, on a 1250 milliards d'euros de dette aujourd'hui, le problème n'est toujours pas réglé, parce qu'on n'a pas voulu voir les responsabilités d'un modèle social qui est trop coûteux et les responsabilités d'un fonctionnement technique qui ne marche pas, où on peut se planter sur 40 milliards d'euros d'évaluation des recettes et malgré tout, il n'y a jamais de responsable. Dans une affaire autrement plus dramatique, qui touche le cœur du cœur des Français et qui révolte au plus profond d'entre eux nos compatriotes. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a eu des mots justes. Mais une fois qu'on a prononcé ces mots, on est obligé de remonter dans la chaîne de responsabilité, de définir qui a fait quoi, que ces responsables soient poursuivis et soient sanctionnés. Je reviens encore à Marc Bloch, je reviens encore à l'étrange défaite parce que c'est cruellement contemporain. Quand il dit dans le fond l'échec de la guerre de 40, c'est quoi? C'est pas uniquement le général, c'est dans toute la chaîne de commandement, ouais, dans tous ceux qui avaient une part de responsabilité que certains n'ont pas exercé,
oui,
cette responsabilité.
Très honnêtement, vous seriez plus audible à dire ça si vous aviez démissionné quand vous constatiez que vos alertes n'étaient pas entendues.
Non.
Je pense que...
Précisément non, parce que prendre ses responsabilités, c'est pas fuir la décision. C'est prendre les décisions en étant correctement informé, le plus lucidement possible.
Oui, mais...
Démissionner, c'est déserter. Et je considère que jusqu'au bout, il faut se battre. La seule chose, Charles Consigny, que je ne pouvais pas prévoir, c'est quand vous avez proposé un plan de rétablissement des comptes publics, que vous commencez à le mettre en œuvre et qu'il commence à donner des résultats, tout d'un coup, dissolution, plus de plan de redressement des comptes publics.
Oui, mais moi, ce que je vois, c'est parfois partir, c'est aussi résister, sans faire de parallèle à la con historique, mais quand De Gaulle se barre avec armée bagage, il n'écoute pas ceux qui lui diraient qu'il vaut mieux rester pour essayer de juguler la et tragédie. Moi, je pense quand même que il y a eu 10 ans de macronisme, et franchement, je trouve qu'en 10 ans, malgré les crises, et les crises, tous les présidents en ont, Sarkozy a eu une crise majeure, Hollande à sa façon avec le terrorisme a eu une crise majeure, je trouve que le bilan est quand même assez décevant et à mon sens il tient du positionnement politique. Je vous pose une question par exemple, vous parlez de l'Allemagne. L'Allemagne nous a forcé à ratifier, elle nous a pas d'ailleurs forcé à ratifier, elle a ratifié contre nos intérêts le traité du Mercosur. Vous avez été ministre de l'Agriculture, vous savez à quel point les agriculteurs français, ils n'en veulent pas du Mercosur. Moi je pense qu'ils ont raison de pas en vouloir et qu'en fait ce traité correspond à une vision du monde qui est dépassée. C'est-à-dire se dire qu'on va saborder les agriculteurs français pour vendre des Mercedes au nom de l'Europe. Bah, je suis désolé, moi j'ai beau être très pro-européen, ça fait pas aimer l'Europe. Typiquement, ce traité, demain, si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez de ce Mercosur? Comment vous expliquez aux Allemands qui sont à fond pour le Mercosur que vous le passez par perte et profit si c'est ce que vous souhaitez faire?
Moi, je pense qu'on a besoin d'avoir des traités commerciaux avec d'autres puissances. J'étais 3 ans ministre de l'Agriculture.
On n'en manque pas, hein, des traités commerciaux.
Non, mais je pense que nous avons besoin d'ouvrir pour nos viticulteurs, pour nos producteurs de lait, d'autres marchés. Les viticulteurs, ils sont en grande difficulté. Et qu'ils soient dans le Bordelais ou ailleurs, en grande difficulté.
Oui, parce qu'on consomme moins de vin aussi.
Oui, mais du coup, ils ont besoin d'autres marchés. Donc l'idée qu'on va se fermer à d'autres marchés ne me paraît pas bonne. Ce qui est injuste et inacceptable pour les paysans français, ils ont raison, c'est qu'il y ait 2 poids 2 mesures. C'est qu'on applique des règles en Europe et que l'Europe soit pas capable de les faire respecter par le Brésil ou par d'autres pays membres du Mercosur. Tant qu'on n'a pas cette garantie-là, on ne peut pas signer un accord de libre-échange. C'est pas pour autant qu'il faut fermer la porte à des accords qui, eux, seront rigoureusement respectés.
Donc ce traité, par exemple, vous reviendriez dessus, vous dénonceriez les conventions internationales qui nous, ou européennes qui nous obligent en l'état à l'appliquer. Qu'est-ce que vous feriez en matière?
Je garantirais simplement l'équité pour nos agriculteurs. Si un produit bovin qui vient du Brésil a été produit avec des hormones qui ne sont pas autorisées par les instances sanitaires...
Oui, mais ça, on sait bien que c'est le cas.
Oui,
je veux dire, les agriculteurs,
faut,
vous savez,
encore
moi j'ai rencontré,
qu'on puisse le vérifier.
J'ai discuté longuement.
Encore faut-il qu'on puisse le vérifier, parce que quand vous allez en Bretagne et que vous regardez la manière dont sont surveillées les exportations de porcs bretons vers la Chine,
oui,
vous avez des autorités sanitaires chinoises qui sont présentes et qui vérifient. Où sont les autorités européennes qui vont vérifier sur le sol sud-américain que les produits qui seront importés respectent rigoureusement les normes qu'on impose à nos paysans.
Donc il ne faut pas se traiter du Mercosur.
il ne faut de traité qu'à partir du moment où on respecte les règles des deux côtés.
Mais donc, ça impliquerait, par exemple, de dénoncer ce traité. Mais
ça impliquerait de ne pas l'appliquer tel qu'il est aujourd'hui, bien sûr. Mais je reviens
au prix d'une fâcherie avec l'Allemagne.
Une seconde, étant beaucoup plus âgé que Charles Consigny, sur le bilan. Malheureusement, si. Sur le bilan des 10 ans. Et je vais être un peu plus cruel, peut-être encore que vous. Dans le fond, c'est pas les 10 ans qui ont pas marché, c'est pas les 15 ans. C'est que quand vous regardez, et j'en prends toute ma part, j'ai fait de la politique depuis des années, quand vous regardez le bilan depuis 20-25 ans, on devrait être à 4% de taux de chômage. On devrait avoir engagé la réindustrialisation. On devrait avoir une meilleure prospérité pour les Français. Et c'est pas le cas. Donc je pense que prendre Emmanuel Macron comme cible, c'est une mauvaise cible.
Parce
que
ça nous empêche collectivement,
ça nous empêche
c'est
de
pas
voir.
Lui, c'est lui, vous et tous les
c'est
autres ministres
tout
du
le modèle, c'est tout le modèle sur lequel nous vivons depuis 1981, qui est un modèle de redistribution, de pénurie, où l'État prend toujours plus de place. Et l'économie, fonctionne pas.
Vous on avait commencé. Quand vous étiez ministre, vous l'avez bien constaté,
bien sûr.
Vous étiez un ministre important du gouvernement.
C'est bien pour ça qu'on a engagé des mesures.
On dit que Bercy pourrait fonctionner avec moitié moins de fonctionnaires. Mais que n'avez-vous mis à pied la moitié des fonctionnaires de Bercy?
C'est bien pour ça, Charles Consigny, que nous avons engagé des mesures contre l'avis de tout le monde, qui ont donné des résultats, mais qui commençaient à nous sortir de ce modèle de 1981. Les réformes fiscales, la stabilité fiscale, la transformation du marché du chômage, la réduction des indemnisations chômage pour inciter au retour à l'emploi, la facilitation de la vie des entreprises avec PAC, le début d'une retraite par capitalisation avec le produit d'épargne retraite.
Mais
on était dans la bonne direction, on aurait dû
simplement... C'est bien, mais sur 10 ans, c'est quand même
nous aurions dû simplement pousser les choses beaucoup plus loin pour faire basculer le pays dans la bonne direction. Au lieu de ça, depuis 2024, on a pris le chemin inverse. C'est ça que nous payons cash.
Et par exemple, là aujourd'hui, puisqu'on parle des chaînes de responsabilité, est-ce que Gérald Darmanin peut rester encore ministre de la Justice, selon vous, Charles?
Vu les conclusions de Le Cornu, c'est quand même compliqué, je pense.
Moi, j'ai un avis différent. Je défends le travail que fait Gérald Darmanin. J'estime qu'il a été un des premiers à dire « on a un sujet là-dessus, j'envoie des circulaires, je me mobilise sur cette question des violences qui sont faites aux enfants ». Simplement, le problème de fond, c'est que le garde des Sceaux n'a pas autorité sur la chaîne pénale. La proposition
plus
que je fais,
Taubira,
c'est de revenir sur la loi Taubira de 2013, de rétablir des instructions individuelles pour que le garde des Sceaux
sur les parquets,
ait autorité.
Sur
je vous dis que le deuxième sujet majeur, c'est l'autorité de l'État.
Mais
j'en tire des conclusions très pratiques. Si vous voulez que le garde des Sceaux soit vraiment garde des Sceaux et pas simplement la reine d'Angleterre, comme avait dit un ancien garde des Sceaux, il faut qu'il puisse donner des instructions individuelles, revenir sur la loi Taubira, définir une politique pénale et appliquer cette politique pénale.
Vous n'appliquez pas vos propres principes. Vous venez de dire, il faut que de nouveau les gens soient responsables, sanctionnés individuellement, etc. Moi, je j'ai rien contre Gérald Darmanin, mais il a été ministre de l'Intérieur, il est maintenant garde des Sceaux. On constate que ce sont des gendarmes et des juges qui ont failli dans cette histoire. Et il n'y a pas que Liana. Avant Liana, il y a eu Lola. Avant Lola, il y a eu Philippine, il y a eu Matisse, il y a eu tous ces prénoms, tous ces drames, finalement, dont les gens se souviennent, parce qu'à chaque fois, c'est l'État qui avait failli. Et ça aussi, pardon, je pense que c'est aussi une 10 ans de non-choix en matière de sécurité, de règles de procédure pénale et de droit pénal, et d'immigration. Et ça, c'est aussi le résultat du en même temps. Est-ce qu'au moins, vous êtes d'accord pour dire que vous sortez complètement de cette logique du en même temps? Vous vous affirmez de droite. Est-ce que vous vous dites pas qu'il aurait peut-être fallu un président de droite?
Je ne m'affirme pas de droite.
Erreur.
Je m'affirme...
Pardon, je vous le dis comme je le pense.
Ma grande liberté est de m'affirmer sur des convictions qui correspondent à mon avis plus à ce que peuvent attendre les Français, qui se contrefoutent de savoir si vous êtes de droite ou de gauche. Mais ils se contrefoutent pas quand vous dites que vous êtes pour la prospérité des Français, pour la liberté d'entreprendre et pour plus de travail pour tout le monde, partout en France. Ils s'en contrefoutent pas quand vous dites que vous êtes pour l'autorité de l'État et que vous en tirez des conséquences très pratiques sur l'organisation de la chaîne pénale, sur la fin de la loi Taubira, et sur le retour des instructions individuelles. Alors, qui vaut d'ailleurs pour beaucoup d'autres domaines. Comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'en France, un chef d'établissement scolaire ne puisse pas remplacer un des enseignants lorsqu'il est absent ou lorsqu'il ne remplit pas son devoir? Comment vous expliquez qu'en France, vous ayez un ministre de la Culture qui ne puisse pas nommer lui-même et ne pas avoir autorité sur les présidents d'établissements publics, parce que c'est le président de la République qui nomme le président du château de Versailles? Tout ça est indigne d'une nation comme la France. Donc je préfère dire que je suis pour l'autorité de l'État, pour la liberté d'entreprendre, pour davantage de travail pour tous, partout en France, et pour une intégration européenne plus forte à 6, que vous dire « je suis de droite » ou « je suis de gauche ».
Oui, mais c'est bien de choisir une direction.
Il nous reste 20 secondes, deux questions rapides. Emmanuel Macron, oui, non, a-t-il été un bon président ?
Oui.
Est-ce que vous revoteriez pour lui ?
Je ne pense pas qu'il puisse se représenter.
Non, mais s'il se représentait, est-ce que vous revoteriez pour lui ?
Je réponds aux cas de figure qui peuvent se présenter.
Et est-ce que vous allez vous présenter en 2027 ? Oui, non.
Ma réponse est...
Oui, non.
Sera donnée en octobre.
Mais, donc, vous y réfléchissez sérieusement. Merci Bruno Le Maire. Merci d'être passé par ce plateau.